Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Après le changement des constitutions suivi plus tard ou juste après des élections présidentielles controversées dans certains pays, plusieurs experts estiment que la démocratie y a laissé des plumes. Alors la démocratie est-elle en recul sur le continent et notamment en Afrique de l'Ouest? Nous en débattons ce soir avec nos invités, professeur Toumba Shango-Lokoro, politologue, professeur à l'université Sorbonne Paris 3 ici en France. Bonsoir professeur Toumba.
Bonsoir.
Bonsoir également à vous, Mathias Oumpe, en ligne de Dakar. Bonsoir.
Bonsoir.
Administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, c'est Open Society Initiative for West Africa. Et nous espérons, en cours d'émission, joindre Newton Ahmed Barry, président de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso, en ligne de Ouagadougou. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à entrer en contact avec ce troisième invité. Au Togo, le quatrième mandat de Fornia Simbe a créé des tensions en Côte d'Ivoire et en Guinée, pareil avec le troisième mandat respectivement de Alassane Ouattara et de Alpha Condé. Professeur Toumba, quelles réflexions sont ces situations, ces troisièmes mandats vous ont inspiré?
Il y a deux types de réflexions que ces tentations de troisième mandat, les revirements politiques des acteurs majeurs de l'Afrique occidentale que vous venez de citer, qui ont fini par céder justement à cette tentation. La première est d'ordre politique général, et la seconde, je dirais, de la manière dont les acteurs politiques comprennent, appréhendent ou métabolisent le principe de la limitation des mandats par rapport justement à leur exercice du pouvoir. Du point de vue politique général, c'est que au fond, nous sommes entrés au sortir des premières années de nos indépendances en 1990 avec les conférences nationales. On avait espéré effectivement, pensé que c'était la fin justement, non seulement du monopartisme, des autocraties issues des indépendances et des pouvoirs illimités, inamovibles de tous les autocrates de cette époque-là. Et on pensait effectivement qu'on entrait dans une nouvelle ère démocratique en Afrique. C'est vrai que K1KA, il y a eu des succès, des réussites, et puis au bout d'une dizaine d'années, on a assisté à une forme de revirement d'un certain nombre des leaders politiques.
Notamment des chefs d'État en place.
Des chefs d'État, oui, en place. Soit parce que, une fois qu'ils ont été élus, il y a eu une forme de surestimation des capacités, justement, à incarner l'ordre démocratique, qui s'est transformé en une sorte de mystique du chef charismatique sans qui rien n'est plus possible et qui les pousse à s'accrocher au pouvoir.
D'accord, on va justement entrer dans cette phase, on va dire, de tentative d'explication. Mathias Oumpe, je ne vous demande pas d'entrer dans la tête de ces chefs d'État, mais qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé ce type d'initiative et de projet politique de la part de ces présidents en exercice?
Disons qu'il y a un phénomène global qu'il faut observer depuis le début des années 90, où, comme le disait le professeur, nous avons commencé globalement ce mouvement vers, n'est-ce pas, la démocratisation des systèmes politiques dans nos pays. Et ce phénomène, c'est en fait d'abord la stagnation de la consolidation de nos nouvelles démocraties depuis une quinzaine d'années, et depuis quelque temps, 5 ans, 6 ans, nous observons une sorte de recul démocratique. Et la tentative et le succès dans le maintien au pouvoir, pour moi, fait partie des manifestations, justement.
Allô, Mathias Oumpe? Allô?
Moi aussi, en Afrique, depuis quelque temps. Et ce qui explique ce phénomène, oui, ce qui explique ce phénomène, c'est qu'au fond, ces dernières années, vous voyez que les ressorts sur lesquels repose le système démocratique dans nos pays, ces ressorts sont petit à petit désactivés. Le premier, c'est le contrôle des citoyens. La force des organisations de la société civile et de toutes les corps intermédiaires à empêcher les pouvoirs, surtout le pouvoir exécutif, de se comporter comme il veut dans notre environnement démocratique. Le second, c'est l'affaiblissement du contrôle horizontal, c'est-à-dire le contrôle par les contre-pouvoirs. Par exemple, dans tous vos pays, vous avez le sentiment que le pouvoir exécutif est hyper dominant, hyper puissant par rapport
à... Avec les contrôles de tout ce qui aurait pu être ces contre-pouvoirs, l'Assemblée nationale, les médias.
Exactement.
Oui.
Les conseils et cours constitutionnels, etc. Et le troisième facteur, qui était un facteur qui aidait aussi au maintien de la démocratie chez nous, si vous voulez, c'est l'opinion internationale. Vous savez, aux alentours des années 90, on parlait de la fin de l'histoire. C'est comme si, au niveau international, il y avait une sorte de communauté de vue sur le fait que la démocratie était le chemin que tout le monde devait jouer. Devrait entreprendre. Aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, vous n'avez plus, ce consensus au niveau de la communauté internationale.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'au niveau... Cette absence de consensus, est-ce qu'on peut vraiment parler de l'absence de consensus au niveau international, mais ne peut-on pas plutôt parler de cette exigence démocratique à géométrie variable de la part de la communauté internationale qui aurait peut-être alimenté cette tentation du troisième mandat?
Non, je suis d'accord avec vous. Mais la variabilité de la géométrie à l'endroit des nouvelles démocraties comme celle en Afrique, aujourd'hui, reflète aussi des hésitations qu'on observe dans les anciennes démocraties. Je vous donne juste un exemple. Et puis, on peut revenir là-dessus après. Vous savez, la première rencontre que le président Trump a eue avec les chefs d'État africains, il n'a pas été question des droits de l'homme ni de démocratie, contrairement aux prédécesseurs de Trump, par exemple. Mais je peux vous donner beaucoup d'autres exemples de cette nature-là. Que vous observez au niveau international aujourd'hui qu'on n'a plus ce consensus-là sur la nécessité de la démocratie et des droits de l'homme.
J'insistais sur aussi l'aspect de cette démocratisation ou de cette exigence démocratique à géométrie variable. On a eu l'exemple récent avec les félicitations d'Emmanuel Macron adressées à Alassane Ouattara et refusées à Alpha Condé. Alors que tous les deux chefs d'État se sont engagés dans le même processus de troisième mandat.
Moi, pour être honnête avec vous, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je me demande quelles étaient les motivations du président Macron. Pour moi, ces appréciations étaient mal placées, que ce soit vis-à-vis de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée. Mais si vous prenez la France et que vous prenez la position de la France dans le temps, vous vous rappelez la fameuse conférence de la Baule qu'on considère comme pour les pays francophones d'Afrique
le point de départ de la démocratie.
Oui. Ce qui n'est pas totalement vrai. Donc vous voyez maintenant la France, qui au début des années 90 était un peu comme l'un des porte-flambeaux de la nécessité de l'expansion de la démocratie en Afrique, aujourd'hui se permet à travers le président Macron de justifier le troisième mandat en Côte d'Ivoire, etc. Et donc vous voyez qu'il y a une sorte d'évolution au niveau de la position, ce que j'appelle de la communauté internationale par rapport à la démocratie et aux droits de l'homme.
Merci.
Et donc, la conséquence de cela, c'est que nous avons des chefs d'État dans nos pays qui deviennent des hyperpuissants contre qui personne ne peut s'élever en tant que tel. Et donc, la conséquence, c'est que vous pouvez voir le président Ouattara décider de changer la constitution quand il veut.
D'accord.
Le président Alpha Condé peut changer sa constitution quand il veut.
Justement, donc, ça me permet, Mathias, de poser cette question au professeur Toumba. L'autre élément qui permet à ces chefs d'État ou peut-être les pousse à se lancer dans ce projet de troisième mandat, c'est aussi peut-être que le terrain est propice. Est-ce que le terrain propice ne leur permet pas aussi de se lancer parce que ils sont sûrs de gagner leur pari et de réaliser leur projet de troisième mandat? Et dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de la classe et même du personnel politique des pays concernés?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Liliane. Je pense que la première responsabilité de cette fluctuation démocratique en Afrique est d'abord de la responsabilité des Africains eux-mêmes. Mais Oumoupé a commencé à le dire, justement. Lorsque les structures intermédiaires sont affaiblies, que ce soit la société civile, les organisations non gouvernementales locales, les partis d'opposition très friables, à l'échine éthique très souple. Lorsque toutes ces structures-là sont affaiblies, ceux qui sont au pouvoir s'autorisent justement de cela pour pouvoir se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, alors il y a quand même une différence de degré entre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui s'est passé en Guinée. Hein. Il faut que nous le disions, puisque au fond en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara s'était déjà retiré, avait choisi quelqu'un d'autre pour être le candidat de son parti. C'est après que, ben justement, avec le décès...
Donc vous êtes dans la logique d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il y a des pays où on peut trouver des excuses au troisième mandat, ou bien des pays qui ont des excuses du troisième mandat et d'autres pas.
Non, Liliane, il n'y a pas d'excuses du tout. C'est simplement pour montrer la différence de degré entre les deux manières d'aspirer au troisième mandat entre les deux candidats, les deux présidents
pays.
Sortants, d'accord, et les deux pays. Donc c'est ça qui fait effectivement que d'un côté, Alassane Dramane Ouattara a été légitimé lui-même de cette manière-là, alors qu'en Guinée, Conakry, il n'y avait aucune raison justement de modification de la Constitution et d'entrer dans ce troisième mandat, d'autant qu'on sait comment Alpha Condé est arrivé au pouvoir et comment il s'était opposé déjà à l'époque à la tentation de troisième mandat de l'ancien président guinéen. Donc, je pense effectivement que c'est la faiblesse des oppositions et des structures intermédiaires africaines qui favorisent cette tentation du troisième mandat. Par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que si ces chefs d'État avaient bien exercé leur mandat, s'ils avaient répondu à toutes les attentes, c'est pourquoi je parlais des surestimations, des capacités à incarner l'ordre démocratique, ils ne se seraient pas accrochés justement au pouvoir de cette manière-là, au point de briller un troisième mandat inconstitutionnel en tant que tel. Ça nous renvoie justement à la question de la métabolisation et de la perception de ce principe, justement, de limitation des mandats. C'est qu'au fond, soit c'est par tactique que ces hommes ont accepté dans un premier temps d'accepter ce principe. Une fois au pouvoir, ils ont compris effectivement, suite à plusieurs raisons hein, qu'on peut trouver pour expliquer pourquoi ils s'accrochent, et alors à se considérer comme inamovible, comme seul capable justement de pouvoir incarner ce changement.
Certains experts estiment que parfois c'est pour sauvegarder les intérêts du clan, protéger sa famille, que ces chefs d'État cherchent le troisième mandat pour rester au pouvoir le plus longtemps possible et peut-être mourir même au pouvoir.
Oui, j'allais en arriver à ce point-là, effectivement. C'est que pendant cet exercice-là, effectivement, celui qui est au pouvoir, le président qui est élu, qui est au pouvoir, s'est senti obligé, justement, de la famille plus large, hein, tribu, etc., des amis, et se disant, au fond, si je quittais le pouvoir dans des conditions actuelles, qu'adviendrait-il, justement, de ceux qui sont proches de moi, ma famille, etc.
Merci.
Et c'est à partir de là, comme une sorte de crainte, justement, de perdre tout cela, ou peut-être de se retrouver soi-même impliqué dans des procédures judiciaires qui fait effectivement que dans certains cas, il s'accroche au pouvoir.
Merci, professeur Loko. Mathias Oumpé, quand on écoute le professeur Loko, au moins sur l'aspect relatif au troisième mandat en Côte d'Ivoire et en Guinée, il a fait une comparaison. Pour vous, vous pensez que on ne peut pas interdire le principe, on ne peut pas être contre le principe d'un troisième mandat?
Non, disons que même dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous savez, le point de départ, C'est le point de départ qui pose problème. Si vous vous rappelez dans la constitution ivoirienne, non seulement que le nombre de mandats était limité à 2, il y avait aussi une limitation supérieure de l'âge pour être candidat. Je crois que c'était fixé à 75 ans.
Oui, ça a été avec la constitution de la constitution révisée en 2016, ce verrou a sauté.
Tous ces verrous ont été sautés. Donc c'est comme si on a révisé la constitution en laissant toujours la porte ouverte pour que le président Ouattara puisse se représenter. Et pour moi, c'est le point de départ. Si on avait maintenu seulement ce verrou, n'est-ce pas, de la limitation supérieure de l'âge, ni Ouattara, ni Bédié, ni Babo n'aurait pu se présenter encore pour les élections en Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, dès le départ, on ne veut pas dire que le président Ouattara s'était vraiment fermé la porte par rapport au troisième mandat. La deuxième raison pour moi, disons que les élections ont un contenu un peu aléatoire. C'est-à-dire que vous allez aux élections sans nécessairement maîtriser tous les paramètres, n'est-ce pas, de victoire. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse dire, parce qu'on a choisi un candidat qui malheureusement est décédé, donc on est prêt à remettre en cause des principes sur lesquels on s'est entendu. Je n'imagine pas ça aux États-Unis, je n'imagine pas ça en France, même si nous sommes une nouvelle démocratie. Je crois que le président Ouattara aurait pu se donner les moyens d'identifier un autre candidat dans son groupe qui pourrait valablement représenter le parti politique. Donc moi, je ne crois pas en cet argument.
Donc vous êtes, contrairement au professeur Toumba, opposé au principe même du troisième mandat.
Non, je suis opposé à l'idée même qu'on puisse chercher à justifier.
Merci.
Que pour une raison ou une autre, parce qu'un scénario qu'on a prévu ne s'est pas présenté, donc on peut revenir et se présenter pour un troisième mandat. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup de réserves par rapport à cette explication.
Merci beaucoup, Mathias Ompé. On va marquer une toute petite pause et reprendre le débat dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Suite du grand rendez-vous sur Africa Radio. Et ce soir, nous parlons du changement des constitutions qui sont parfois suivies en Afrique d'élections présidentielles contestées dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment avec nos invités. Mathias Ompé de Osiwa en ligne de Dakar au Sénégal, professeur Toumba Changoloko, politologue ici en France, et Alseni Sall, membre de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, nous rejoindra dans quelques instants. Il est à Conakry. On va encore poursuivre quelques instants l'échange que j'avais avec vous, Monsieur Ompé, avant la pause. Alors, je prends le cas du Sénégal, où vous vous trouvez. L'opposition a récemment accepté d'entrer au gouvernement, en tout cas une partie de l'opposition. Alors, cette opposition qui accepte aujourd'hui de composer avec le président Macky Sall, est-ce que cette transhumance ne peut pas aussi alimenter le projet de nourrir le projet de troisième mandat des chefs d'État, puisqu'au Sénégal, on en parle aussi?
L'alimenter, je suis d'accord avec vous, et je pense que ça l'a alimenté. Je crois que cette dernière semaine, ça a fait partie des questions qui ont agité, n'est-ce pas, le milieu médiatique et politique sénégalais. Mais lorsque vous regardez l'histoire politique du Sénégal, ce pays est habitué à ce genre de mouvement. C'est-à-dire que vous voyez les leaders politiques rejoindre la mouvance présidentielle, après se retrouver encore dans l'opposition. Vous allez voir que le président Ouad a été parfois partisan, parfois opposant, parfois mouvancier, plusieurs fois avant de gagner le pouvoir finalement en l'an 2000. Et donc je pense que c'est un peu de la culture politique ici au Sénégal, mais en même temps, ça ouvre naturellement la voie à des polémiques autour d'une...
Ça donne lui un terreau fertile.
Voilà. Bon, disons que si vous regardez le Sénégal, nous pas encore, c'est ce pays où on n'a jamais eu un président qui a fait les deux mandats, qui a laissé le pouvoir. Et donc, le Sénégal, pour moi, est un terrain relativement qui soulève des questions. Un peu comme c'était le cas en Guinée et en Côte d'Ivoire. Ça m'a fait deux pays, depuis les indépendants, on n'a pas eu un président qui a respecté les deux mandats, qui a quitté le pouvoir. Et donc, le Sénégal, de mon point de vue, même si c'est un modèle de démocratie...
Donc, vous voulez dire...
C'est un pays où aucun président jusque-là...
Vous voulez dire, Mathias Ompé, que le débat pour un troisième mandat de Macky Sall au Sénégal est bien réel, qu'il existe, le risque existe, à cause, entre autres, de cette transhumance politique qui pourrait favoriser ce type de projet.
À cause du fait que le président a plusieurs fois touché à la Constitution, et quand vous prenez le milieu, n'est-ce pas, des constitutionnalistes aujourd'hui, ils sont divisés sur la possibilité que ces différentes modifications autorisent légalement la possibilité d'un troisième mandat ou non. Ça a été le cas sous Wade, et c'est le Conseil constitutionnel qui a tranché et qui a dit que Wade était autorisé à se présenter une troisième fois. Donc tout le monde va attendre le Conseil constitutionnel, mais tout le monde sait que le débat est sur la table. Et donc, de mon point de vue, le débat est là. Les mouvements au sein de la classe politique nourrissent naturellement ce débat, mais je dis qu'il faut tenir compte du contexte sénégalais, qui est celui où aucun président jusqu'à Macky Sall n'a accepté de quitter le pouvoir après deux mandats.
Merci. Assani Sall, bonsoir, bienvenue.
Merci beaucoup.
Membre de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, vous êtes donc en Guinée. On parlait de cette transhumance politique en Guinée. On n'en est pas loin puisque certains membres de l'opposition, notamment de l'UFDG, ont rejoint le camp présidentiel quelques mois avant l'ouverture de ce débat sur le troisième mandat qui a abouti à ce qu'on connaît, c'est-à-dire une crise politique. Et là, on annonce aussi un rapprochement possible entre le bloc libéral du docteur Fayami Limono, qui est pourtant membre du FNDC, avec le pouvoir. Il était d'ailleurs présent à l'investiture de Alpha Condé pour un troisième mandat.
Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Évidemment, vous savez, aujourd'hui quand même, si vous voyez ces 10 dernières années, et notamment en Afrique de l'Ouest, en 2010, il y a eu beaucoup d'élections en 2010 qui ont suscité beaucoup d'espoir dans la sous-région, hein, parce que d'aucuns pensaient que quand même que l'Afrique de l'Ouest était en train de se démarquer des autres régions de l'Afrique en matière d'évolution démocratique. Mais si vous constatez, 10 ans après, il y a un grand recul et tous les espoirs ont été dessus. En Guinée, moi, très récemment, le GEDAS avait sorti un article à la veille de la présidentielle de 2020 pour dire que nous avons connu une marche démocratique en dents de scie. Il y a eu tellement d'espoirs dessus. Et aujourd'hui, nous avons quand même une classe politique quand même qui est dans une situation de crise et une crise de leadership. Il ne dit pas son nom. Nous constatons quand même qu'aujourd'hui, quand même, il y a peu d'acteurs politiques qui ont de la conviction et
une vous voulez dire crédible et constant tout à fait, vis-à-vis de leur position, de leur idéologie.
Tout à fait. Et aujourd'hui, quand même, c'est la plupart d'entre eux sont guidés par leurs intérêts. Et vous voyez, à un moment donné, nous constations, par exemple, en Guinée, pour avoir les frustrés de Alpha Condé, pour revenir aux affaires, ils sont obligés à un moment de s'afficher avec ces loups pour insulter un peu Alpha Condé et pour que ce dernier pense qu'ils sont encore importants, qu'ils ont du poids, pour les ramener un peu à la mouvance présidentielle.
Et Assani Sall, quelles sont les conséquences justement de ce va-et-vient des hommes politiques aujourd'hui amis avec tel, ennemis avec tel autre demain? Est-ce que tout ça ne donne pas une sorte de feu vert au président de dire que je connais ma classe politique, de toute façon, si j'arrive d'une manière ou d'une autre à en convaincre deux ou trois, je pourrais aller me lancer dans mon projet de troisième mandat sans crainte d'être véritablement contesté.
Oui, mais les conséquences sont là. Nous les vivons en Guinée, nous les vivons en Côte d'Ivoire. Peut-être que nous allons les vivre aussi dans d'autres pays. Aujourd'hui, le manque de constance au niveau des acteurs politiques, c'est ce qui contribue à favoriser évidemment le durcissement du pouvoir, mais aussi les troisièmes mandats chez nous en Afrique. Parce que ici, la classe politique... En Guinée, quand on prend les années 2006 jusqu'en 2008, il y avait une dynamique qui était engagée non seulement au niveau de la société civile, mais aussi au niveau de la classe politique pour créer une alternance. Mais on a constaté quand même que la plupart de ces acteurs qui étaient au devant de la chaîne pour lutter, pour demander cette alternance, cette démocratie, la plupart de ces acteurs, lorsqu'ils ont pris goût du pouvoir, ils ont changé complètement. Et donc, évidemment, ces retournements de veste favorisent aujourd'hui et les troisième mandat, mais aussi l'instauration des pouvoirs autoritaires.
Merci.
Alpha Condé, à son arrivée au pouvoir, il avait dit que qu'il allait vraiment faire échec à l'opposition, que dans 6 mois, il n'y aurait plus d'opposition. Aujourd'hui, on a l'impression que la seule personne qu'Alpha considère comme opposant, c'est nous. Tous les autres, ils pensent que ce ne sont plus des opposants.
Et qu'il peut, il peut les enrôler quand il le souhaite. Merci beaucoup, Assani Sall, pour cette analyse. Je reviens à vous, professeur Toumba, pardon. Alors, on se rend compte, en vous écoutant, que le problème n'est pas le système ou le code électoral. En tout cas, ce n'est pas là le cœur du débat aujourd'hui. Le problème de système électoral n'est pas aussi présent que les projets de modification de la Constitution lui-même.
En réalité, le problème, il est, il n'est pas très compliqué au fond. Complexe, certes, mais pas très compliqué. Pourquoi ? C'est d'abord, la qualité du constituant, quel qu'il soit, qui discute et puis qui propose un modèle de constitution au pays, qui propose un régime au pays. Si on est dans un régime parlementaire, tout le débat que nous avons ici n'a pas lieu. Mais nous sommes dans des régimes présidentiels ou semi-présidentiels. Voilà, qui posent problème. Le deuxième problème, c'est la nature de nos partis politiques.
Pardonnez-moi d'apporter juste une petite précision, un bémol. C'est la Guinée-Bissau qui est dans un régime parlementaire. La crise a été également très forte en Guinée-Bissau. Ce pays sort à peine de l'instabilité.
Oui, parce que là aussi, il n'y a pas la maîtrise justement de ces outils parlementarisme, du régime parlementaire qui fait que c'est le Premier ministre qui est nommé. Tant qu'il est en place, hein, il a une majorité, il reste, il est élu, réélu indéfiniment. C'est ça le principe. Alors que dans le régime présidentiel, évidemment, il y a ce principe de la limitation de mandat et de l'alternance politique. Donc ça nous pose la question, je disais, de la nature de nos partis politiques et du rapport que les membres de ces partis politiques ont avec les leaders de ces partis politiques, au fond. Et ça pose aussi le problème, justement, de la cohérence et de la constance idéologique, j'allais dire politique, des dirigeants politiques et de ceux qui constituent les partis politiques. Au fond, on s'aperçoit qu'en général, les partis politiques s'incarnent autour d'une figure, d'une personnalité. Les autres membres sont des suiveurs. Et tous les cas qu'on vient d'évoquer, la Côte d'Ivoire ou la Guinée, ça fonctionne de la même manière ou au Sénégal, mais je n'ai aucune crainte pour le Sénégal puisqu'il y a une tradition du débat, etc., qui fait que on ne peut pas modifier impunément la Constitution, sinon...
Mais vous venez d'écouter Mathias Oumpé sur l'entrée d'une partie de l'opposition au gouvernement.
Ça, c'est un jeu, j'allais dire, politique ou politicien naturel, qui relève de l'habileté de celui qui est au pouvoir, qui sont effectivement... Mais ça ne signifie pas que ça effrite la capacité ou la possibilité de ceux qui viennent ou de ceux qui ne viennent pas de dire « halt » à un troisième mandat. Mais on a vu tout ce qui s'est passé avec le PDS, avec Gorgui Ablaïwad et le problème de son fils, ce qui a entraîné justement l'éclatement, par exemple, du parti. C'est-à-dire qu'il y a une vivacité, vitalité de cette démocratie qui ne me donne pas de crainte.
Merci.
En même temps, je voudrais quand même apporter aussi une autre réserve, c'est-à-dire que nous parlons de 3-4 pays qui violent, qui transforme, modifie les constitutions pour ce troisième mandat. Prenons le Niger, ce n'est pas le cas. Le Burkina Faso, ce n'est pas le cas. Le Mali, ce n'est pas le cas. Le Ghana...
Disons qu'au Burkina, le président est en encore son deuxième mandat. Il a promis de se retirer au terme du deuxième.
Bien sûr, le Nigeria, le Libéria, Sierra Leone, et on ne mentionne pas souvent le Cap-Vert, par exemple. Donc, il y a encore des exemples qui montre justement cette solidité, cette acceptation, cette métabolisation justement du principe constitutionnel de l'alternance.
Mathias Oumpé, voilà, le professeur Toumba vient de dire qu'on oublie qu'il y a d'autres pays qui respectent leur constitution et que le cas de ces pays-là est un peu marginal. Mais au fait, la limitation du nombre de mandats présidentiels est-elle forcément synonyme de démocratie ?
disons que je vais insister sur le fait que je suis complètement d'accord avec le professeur que en réalité les cas du troisième mandat sont isolés. En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, y compris la Mauritanie, si vous prenez les 16 pays, il n'y a que 3 où vous avez en ce moment des présidents.
Puisque le président Abdelaziz s'est retiré aussi.
Togo, la Guinée, voilà, le Togo, c'est la Guinée et c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, dans tous les autres pays, soit les présidents sont dans leur premier ou deuxième mandat, soit les pays ont respecté la limitation du mandat à 2 depuis plusieurs années. Donc, je crois que quand on est en Afrique de l'Ouest, l'environnement est plutôt encore favorable pour la limitation des mandats à 2. Maintenant, est-ce que le respect de la limitation des mandats est synonyme de démocratie ? Naturellement, non. Comme tout le monde sait que les élections seules ne suffisent pas pour faire la démocratie. Donc, tout le monde sait que la démocratie, c'est à la fois des institutions, ce sont les règles et c'est une culture. Le professeur parlait tout à l'heure, en réalité, sans le dire, à mon avis, de l'absence de culture politique au niveau des acteurs politiques chez nous, qui fait qu'ils ne sont pas capables d'appréhender, par exemple, la nécessité de la limitation des mandats et autres. Et donc, bien que ce ne soit pas synonyme de la démocratie, de mon point de vue, la limitation des mandats concourt à améliorer la qualité de la gouvernance. Et de ce point de vue, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux que nos jeunes démocraties pratiquent la limitation des mandats.
Merci, Mathias Oumpé. Nous allons à nouveau observer une courte pause et on vous revient pour la suite de ce grand rendez-vous.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous parlons des troisièmes mandats en Afrique, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, avec nos invités Asseni Sall, membre de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen en Guinée. Il est en ligne de la capitale Conakry, professeur Toumba Shango-Loko, politologue, Mathias Oumpé de Osiwa en ligne à Dakar au Sénégal. Avec vous, Asseni Sall, alors je voudrais aussi vous parlez un peu de la mobilisation de la société civile. Hein. Des mouvements citoyens ont souvent contribué à l'émergence de la démocratie en Afrique. Mais pour ce qui est de la question du troisième mandat, elle semble, cette société civile, ces mouvements citoyens semblent bien désarmés. En tout cas, ça a été le cas dans votre pays, la Guinée.
Oui, tout à fait. Mais vous savez aussi quand même, il y a le contexte international aussi qui est notamment caractérisé par la présence de la pandémie et Covid-19 quand même qui a été un frein quand même de la société civile pour le combat que la société civile menait et ici contre le troisième mandat, le Front National pour la Défense de la Constitution de 2010. Sinon quand même, ce front quand même était sur une bonne dynamique. Très malheureusement, l'arrivée de la pandémie a fait que les projecteurs se sont réduits sur la Guinée, mais aussi les partenaires internationaux qui devaient venir en soutien au FNDC, notamment les grandes démocraties occidentales, se sont repliés sur eux-mêmes pour s'occuper des problèmes intérieurs à leur pays. Donc il y a ça aussi quand même qui a contribué un peu à limiter un peu l'action du FNDC en Guinée. Maman, je voudrais rebondir un peu sur la question que oui, aujourd'hui c'est la Guinée et la Côte d'Ivoire seulement, ces pays sont marginaux. Mais moi, je voudrais dire que quand même, ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est qu'on crée un mauvais précédent. Et parce que si Alassane Ouattara et Alpha Condé avaient accepté naturellement d'organiser des élections et de partir, ça allait mettre la pression sur tous les autres chefs d'État qui seraient tentés de le faire.
Mais avant les deux, il y a eu le Togo où Fornia Simbernay a son quatrième mandat.
Oui, mais tout à fait, mais quand même, mais Alassane Ouattara, et n'oubliez pas quand même, Alassane Ouattara et Alpha Condé avaient été spécialement invités par le président Obama pour les féliciter en 2010, dès après leurs élections, et parce que quand même, ces pays avaient suscité un peu de l'espoir d'alternance, et compte tenu quand même de la lutte que ces deux personnalités ont représentée en Afrique, Alassane et Alpha, dans l'opposition, on pensait que vraiment ce sont des gens qui allaient continuer à pérenniser et la démocratie chez nous.
Merci.
Mais je partage aussi l'opinion de l'autre qui disait qu'aujourd'hui, la démocratie ne se limite pas seulement au pouvoir exécutif. Il nous faut aussi des institutions. Aujourd'hui, la constitution de 2010 de la Guinée, nous avions une des meilleures constitutions de la sous-région. Très malheureusement, et comme les institutions ont toutes démontré leurs limites, Et c'est tout à fait que nous sommes dans cette situation aujourd'hui.
Merci. Alors, et à ce sujet, Mathias Oumpé, comment, c'est vous qui, vous avez déclaré tout à l'heure que la démocratie, Alseny Sall vient de le dire, ce sont aussi des institutions fortes. Comment justement les renforcer et comment renforcer ces lois et systèmes électoraux aussi pour qu'ils soient plus solides et ne puissent plus être éprouvés par ces initiatives des chefs d'État?
Je pense qu'il faut être modeste, rester déterminé, mais être modeste, parce que malheureusement, l'un des problèmes de la démocratie, c'est que les institutions et les lois se renforcent par des hommes politiques qui contrôlent les institutions, et donc des hommes qui ont intérêt parfois à ce que ces lois et ces institutions demeurent faibles. De sorte que la situation dans laquelle nous sommes, nous demandons des hommes politiques de nous aider à renforcer les institutions ou de renforcer les lois, alors que ces mêmes hommes politiques ont intérêt à ce que ces institutions demeurent faibles.
Donc
c'est la lutte qui va continuer.
Ceux qui créent les problèmes,
c'est la lutte des citoyens.
Ce sont ceux qui créent les problèmes qui doivent encore être des solutions.
Encore, exactement. Et donc je pense que ça, c'est l'une des faiblesses au fond de la démocratie représentative. C'est-à-dire que ceux qui créent les institutions ou qui améliore les institutions, ceux qui ont intérêt à la manière dont les institutions fonctionnent, etc. Et donc, ça crée une sorte de difficulté, n'est-ce pas, à faire évoluer les institutions, les lois, dans un sens ou dans un autre. Mais ceci dit, je pense que les expériences de démocratisation en Afrique ne sont pas les seules au monde. Toutes les sociétés sont passées par là. Si vous prenez les 50 premières années de la démocratie aux États-Unis, je pense que ce qu'on a observé là-bas est pire que ce qu'on observe en Afrique aujourd'hui. Et donc, les sociétés doivent lutter pour que petit à petit, on améliore. Moi, je peux vous dire que si on prend de 90 à aujourd'hui, il y a eu des points d'amélioration. C'est-à-dire que, mais c'est petit à petit qu'on va le faire.
Et
donc, moi,
beaucoup.
Je pense qu'il faut être patient, il faut rester déterminé, mais il faut savoir que ça peut prendre du temps.
Merci beaucoup. Alors, professeur Toumba, la question de départ est en une minute, s'il vous plaît. Comment bâtir ces lois et systèmes électoraux solides sur le continent?
Alors, très simplement, moi, je dirais d'abord, on l'a évoqué en passant, la question de la culture démocratique. Elle est essentielle. La fin du clientélisme politique et donc, justement, la mise en place, le renouvellement de la classe politique, du personnel politique, et puis lever cette hypothèque des hommes forts pour se donner des institutions qui soient plus fortes. Et au fond, on l'a dit aussi, le principe de l'alternance, le principe de la durabilité ou de la limitation des mandats n'est pas en soi seul le principe démocratique par excellence. Si le constituant, si les acteurs politiques n'intègrent pas dans leur psychisme, dans leur manière de vivre, de penser la démocratie, cette notion-là.
Merci.
Enfin, je dirais que la constitution quand même, et c'est vraiment l'une des failles de nos constitutions en Afrique, ne doit pas être l'affaire seulement des spécialistes. On les laisse trop aux constitutionnalistes, aux juristes, aux spécialistes, qui finalement nous donnent des constitutions qui créent des problèmes par la suite. Donc il faut effectivement l'implication aussi de la société civile, de la société en général.
Merci.
Et puis travailler à cette culture-là politique de la population.
Merci beaucoup. Alseny Sall, en quelques secondes, alors la société civile peut-elle jouer un rôle, si oui, lequel, dans la construction de ces lois et systèmes électoraux forts en Afrique?
Tout à fait, elle peut déjà le continuer. En Guinée, elle le fait déjà, son rôle, parce qu'elle participe au suivi, notamment des mises en œuvre des recommandations qui sont adressées aux États en matière de démocratie, mais aussi des droits de l'homme. Mais aussi, elle s'implique davantage aujourd'hui dans tous les processus, notamment électoraux, mais aussi par la surveillance des élections.
Merci.
Donc, elle continue à jouer son rôle.
Merci beaucoup à vous, monsieur professeur Toumba Shango-Loko, politologue et professeur à l'Université de Sorbonne, Paris 3 en France, Mathias Oumpé de Open Society Initiative for West Africa, aussi à Dakar, et Alseny Sall, membre de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. Merci de nous avoir suivis.